Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Tut tut. Le vacarme des obus s'est arrêté. Des voiturettes circulent maintenant entre les corps qui jonchent les champs de bataille du nord de la France. Équipées de postes radiologiques, elles permettent de soigner les blessés directement sur les fronts de la Grande Guerre. C'est à la physicienne et chimiste d'origine polonaise, Marie Curie, que la France doit cette initiative. De l'une de ces petites Curie, comme les surnomment les militaires, descend une jeune manipulatrice. C'est ici qu'il faut opérer. Du haut de ses 17 ans, elle n'éprouve aucune timidité à donner des ordres aux médecins. L'éclat d'obus est fourré là. Alors qu'à son âge, les filles pensent aux garçons et aux soirées de bal, Irène assiste sa mère et sauve des vies. Irène Curie est née en septembre 1897 de l'union de Pierre et Marie Curie. Elle grandit gaiement dans le Paris de la Belle Époque. Le matin, elle se rend à l'école, où elle déteste la philosophie et le latin. Ce qu'elle aime, c'est les sciences et le sport. Randonnée dans la forêt, vélo, natation, gymnastique, voilà qui est assez détonnant pour son temps. Câlinée, choyée, elle a du mal à accepter de partager l'attention quand sa petite sœur Ève naît à la fin de l'année 1904. 2 ans plus tard, la vie heureuse de la famille Curie bascule. Alors qu'ils traversaient la chaussée pour rejoindre le quai de Conti à Paris, Pierre Curie glisse sur le macadam trempé et se prend d'une calèche en plein fouet. Le choc est fatal, la perte est immense. Pour Marie Curie, l'amour de sa vie, pour Irène, son père adoré. Le chagrin est le même lorsque disparaît, quelques années plus tard, son grand-père paternel. Compagnon de jeu qu'il ouvrait sur la culture, les sciences et la beauté du monde, le docteur Curie était un ancien communard qui l'initiait aussi aux idées socialistes. La famille est de gauche et le revendique. Irène suit les cours de la coopérative d'enseignement. En fait, ce sont les parents eux-mêmes qui donnent les leçons. Marie Curie en physique, Jean Perrin en chimie, Paul Langevin en mathématiques. En 1911, à 14 ans, Irène accompagne sa mère à Stockholm pour l'obtention de son second prix Nobel qui vient consacrer sa découverte du radium et du polonium. Irène ne le sait pas encore, mais elle se retrouvera à cette même place dans quelques années, 24 ans plus tard précisément. Avant cela, elle obtient son bachot, puis rejoint l'Institut du radium que sa mère a monté de toutes pièces après la mort de Pierre. Irène Curie poursuit les travaux de sa mère en effectuant sa thèse sur les rayons alpha du polonium. Après Pierre et Marie, le couple scientifique de la famille, c'est Irène et Marie. Au milieu des pipettes et autres Beck Bunsen, Irène croise un jour le regard d'un séduisant préparateur de 25 ans. Il s'appelle Frédéric Joliot et a été recruté sur recommandation de Paul Langevin. Ironie du sort, c'est donc le nouvel amant de sa mère qui fait l'entremetteur. Le coup de foudre est immédiat. Irène a 28 ans, lui en a 25. Ils se marient en octobre 1926. Abandonner le nom de ses parents, impossible pour Irène. Déjà, car elle veut garder cet héritage qui lui est cher, mais aussi pour des raisons féministes. En août 1889, Hubertine Auclair, pionnière du mouvement de libération des femmes, les encourageait à garder leur nom de jeune fille pour œuvrer à leur émancipation. Irène Joliot-Curie donc, et Frédéric Joliot, mais qui se fait appeler Joliot-Curie aussi, ont 2 enfants, Hélène en 1927 et Pierre en 1932. C'est surtout Frédéric qui s'occupe d'eux. Irène est contrainte de séjourner de longs mois dans les Alpes pour soigner sa tuberculose dans des sanatoriums. En janvier 1934, le couple découvre la radioactivité artificielle, c'est-à-dire la possibilité de rendre radioactif un élément qui ne l'est pas. Ils deviennent ainsi des pionniers de la physique nucléaire. Vous savez, cette science qui a changé le monde pour le meilleur, avec la radiothérapie qui permet de traiter le cancer, et pour le pire, avec la bombe atomique dont nous connaissons les dégâts. Ils obtiennent ensemble le prix Nobel de chimie l'année suivante. Irène et Frédéric Joliot-Curie s'inscrivent ainsi dans la droite lignée de Pierre et Marie Curie. Irène ne manque pas de le rappeler dans son discours à Stockholm devant l'Académie Nobel réunie. La création artificielle de radioéléments ouvre un nouveau domaine à la science de la radioactivité et constitue ainsi le prolongement de l'œuvre de Pierre et Marie Curie. Marie Curie n'assiste malheureusement pas à la consécration du travail de sa fille, ayant succombé quelques mois plus tôt à une leucémie. De sa mère, Irène disait aimer son féminisme intransigeant, sa révolte contre l'état social actuel, son désir passionné de voir se réaliser une entente pacifique entre les peuples. Toutes deux sont des scientifiques engagés, mais Irène va encore plus loin. En 1934, les Joliot-Curie, membres de la SFIO, se mobilisent avec la gauche contre la montée des fascismes. Irène défend le droit au travail féminin. Quelle fierté lorsqu'elle est élue membre du gouvernement du Front populaire en 1936. Sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, elle est avec deux consoeurs la première femme à siéger dans un gouvernement français. Cette nomination, elle dit l'avoir acceptée pour faciliter l'entrée des autres femmes au sein du gouvernement. Intellectuellement brillant, le couple performe aussi en couverture des magazines. En juin 1936, Paris Soir Magazine titre en première page « Une femme dans le gouvernement », le beau roman de la famille Curie, dynastie de l'intelligence. Irène est fière d'être comparée à sa mère. Comme elle, la coquetterie ne l'intéresse pas. Il en va de même pour son époux Frédéric, qui n'a que faire des standards de virilité. Ils sont vrais, ils sont nature, ils font du sport, natation, tennis, ski. Quand ils ne sont pas au labo, les jolies écuries sont dehors. Bon, aussi dans des amphis à donner des cours ou à recevoir de prestigieux prix comme la Légion d'honneur. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage pour la paix, multipliant les conférences à travers la France avant d'entrer en résistance. En 1946, Irène prend les rênes de l'Institut du Radium. Si elle poursuit son engagement auprès des femmes, elle-même continue d'être victime du sexisme ambiant, de son milieu et de son temps. L'Académie des sciences ne lui aura jamais ouvert ses portes. Irène Joliot-Curie meurt à Paris en mars 1956 d'une leucémie causée par une surexposition au rayonnement radioactif. Telle mère, telle fille, dans la vie, mais malheureusement aussi dans la mort.
Europe 1, historiquement vôtre.